En sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Même s'il est né en 1976, il déclare être mort en 1960. Paroles de poète, casquette sur la tête, dandy d'aujourd'hui, mais poète tambour, qui s'inscrit dans le toujours de la poésie. Né Marc-Alexandre Obambé, et j'espère que le Cameroun se sent déjà visé, Capitaine Alexandre accumule les trophées, dont le prix Paul Verlaine de l'Académie française 2015 pour le chant des possibles. À 41 ans, pas gêné dans les gènes, ce natif de Douala collectionne les ancêtres poétiques. Je pense que vous aurez droit à René Char et Franck Etienne dans la discussion. Et puis, il s'aventure pieds nus sur la terre brûlante du monde en flamme, du monde en slam. Il le parcourt, ce monde, au gré de ses performances nourries de résidents de la République et de terre, de mer, d'amour et de feu. Bonjour Alexandre Obambé.
Bonjour Yasmine.
Et bienvenue Capitaine Alexandre.
Merci, merci Yasmine.
Première question rituelle, sans doute pour vous, c'est qui ce Capitaine Alexandre ?
Question brutale et douce à la fois, c'est mon alter ego. C'est le rêveur acharné que je porte en moi, c'est peut-être même plus que ça, c'est peut-être le poème que je porte en moi depuis l'enfance et que j'essaye de faire vivre au quotidien depuis que j'ai l'âge de la déraison.
Mais ça vient d'où Alexandre ?
Alexandre est mon prénom, mon deuxième prénom, mais c'est surtout le prénom de mon père, un prénom que j'ai promis à ma famille de faire passer à la postérité il y a quelques années. Et Alexandre, donc précédé de capitaine, est mon hommage à René Char, entre autres, parce que c'était le nom de guerre de René Char pendant la Résistance. Donc René Char a posé la plume et pris les armes, refusé de publier le moindre mot pendant l'occupation, et capitaine Alexandre était son nom de guerre. Et j'aime à dire que c'est mon nom de paix. Et donc c'est un hommage à Charme et puis à d'autres professeurs d'espérance aussi, comme Mandela. Oui, comme Mandela.
Point.
Et Yasmine se dit, mais pourquoi Mandela ?
Mais pas du tout. Yasmine se dit, tiens, il y a une respiration après Mandela et Yasmine va mettre un point.
D comme d'amour et d'eau fraîche.
La question, c'est de quoi sa vie, un poète ?
D'amour et d'eau fraîche, d'abord. De lumière aussi, je pense, après ma question n'engage que moi. Et de lumière, beaucoup de lumière. Parce que seule la lumière permet de dissiper les ténèbres. Et je crois que la poésie, au sens où l'entendait Giono, est une profession d'espérance. Et qu'un poète vit d'abord de ça.
Et ça nourrit son poète ? La lumière ?
Absolument, mais je réponds encore une fois, cette réponse n'engage que moi, mais oui, la lumière nourrit son poète.
Mais peut-être qu'à l'origine de chaque homme, et sans doute de chaque poète, il y a, je vous cite, une part manquante, une absence abyssale. Qui était Jeannette Orobambé ?
La première de mes lumières. Voilà, ma mère, qui était une merveilleuse femme de lettres. Et c'est celle qui m'a transmis l'amour des mots et le goût des autres. Et c'est la première des femmes de ma vie, en fait. Celle qui me l'a donnée. Et beaucoup plus que ça.
Et qui a disparu trop tôt ?
Oui, je pense que de toute façon, nos êtres chers disparaissent toujours trop tôt. Mais elle a disparu à l'âge de 16 ans. Et, c'est mon trou fondateur. C'est cette absence-là qui m'a précipité tout entier en poésie. Pour la simple et bonne raison que seuls les mots me permettaient de retenir ma mère avec moi encore ici. Et quand elle est partie, j'ai écrit une phrase que je partageais avec mon père, que j'ai partagée avec lui, « Papa, la mort n'arrête pas la vie ». Et j'ai commencé à écrire complètement différemment après, parce que mes mots permettaient de redessiner son visage et de pouvoir continuer à converser avec elle. Et la poésie est devenue un peu comme une prière, d'une certaine manière, après la mort de ma mère. Il ne s'agissait plus seulement d'écrire de manière esthétique, il s'agissait d'écrire de manière vitale, absolue. Et je crois que c'était des lettres d'amour à ma mère. Chacun de mes poèmes était une lettre d'amour à ma mère, qui n'était plus là, et qui en même temps est partout.
Est-ce que vous diriez, Capitaine Alexandre, que vous gardez une sorte d'image poétique de vos parents ?
Oui, je pense, mais c'est la faute à mon père. Ça, l'annonce du décès de ma mère, il avait mis à Jeannette Obambé, qui était un poème. Donc quand on est enfant et qu'on lit ça, moi je prends au premier degré cette déclaration d'amour de mon père à sa femme. Il a dit « ma femme était un poème ». Oui, j'ai une image poétique des parents, et j'ai un souvenir, puisque vous parlez de poésie, j'ai un souvenir là qui me revient. Quand Mandela est sorti de prison, le 27 février 90, on avait à la télé, je crois que c'était un des premiers moments de messe collective comme ça que nous vivions au Cameroun. On voit ce monsieur sortir de ce vieil homme, sortir de prison, et je vois ma mère et mon père qui se tiennent par la main, et je sens une émotion incroyable dans la maison. Et je regarde, alors Mandela, j'étais tout jeune, mais je connaissais le personnage historique. Et là, je découvre que c'est beaucoup plus que ça, qu'il a un peu notre grand-père. Quand je vois ce moment de tendresse là, dans ma maison, à Bonapriso, à Douala, je me dis qu'il est beaucoup plus qu'un personnage historique, qu'il est peut-être le grand-père de tous ceux conscients des enjeux du monde. Enfin voilà, donc la poésie est là.
Donc je ne poserai plus jamais la question, pourquoi Mandela? Alors vous revenez du Cameroun, capitaine Alexandre, où pour les 10 ans de la mort de votre père, vous venez de lancer à Douala la fondation Jeannette et Alexandre Obambé. C'est quoi la vocation de cette fondation?
Alors la vocation première de la fondation que je lance avec ma sœur qui en est la présidente et mon frère, la vocation première est de fédérer des énergies, des talents artistiques, des personnalités de la société civile au parcours inspirant, donc de fédérer toutes ces énergies-là et ensuite de faire en sorte que ces énergies soient au contact de la jeunesse du Cameroun, qui peuvent incarner auprès de jeunes des modèles de réussite pour des jeunes gens.
C'est un hommage à vos parents, on ne l'a pas encore dit, mais votre mère était professeure de philosophie et votre père faisait quoi? C'était aussi un acteur culturel?
Oui, mon père était un activiste culturel.
Même. Activiste, c'est-à-dire?
En fait, mon père, je pense que toute sa vie, il a été impliqué dans la culture sous toutes ses formes. Il a été producteur d'artistes, il a été mécène culturel, il a été organisateur d'événements. Il a mis le pied à l'étrier à de nombreux artistes camerounais en produisant donc des albums, des pièces de théâtre. Il a coécrit une pièce de théâtre aussi qui est un hommage à Douala Mangabel, un héros national de camerounais, héros de la résistance. Donc c'était un homme de culture.
D'où votre désir aujourd'hui de transmettre à nouveau ce flambeau de la pensée et de l'amour de la culture. Votre père était un peu dans le théâtre puisqu'il a écrit, en tout cas a été inspiré par l'histoire coloniale du Cameroun, qui est une histoire très très complexe. Est-ce que vous avez en tête, comme vous me l'aviez promis, parce qu'on m'avait promis plein de choses, un texte qu'il a écrit?
Je parle trop.
Vous parlez beaucoup, oui, mais vous êtes payé pour ça. Et ça nourrit son poète, il paraît. Ngouma Djeméa, le courage d'accepter. C'est un texte de théâtre qu'il a écrit.
Oui, Ngouma Djeméa est un texte de théâtre donc mon père a coécrit et produit une pièce de théâtre en Douala sur la vie et la mort de Douala Mangabel, qui était le roi de la chefferie Douala de Bali, pour être plus précis, puisque je sais qu'il y a quelques Camerounais qui écoutent, qui risquent de me taper sur les doigts si je ne suis pas précis. Et cette pièce de théâtre a été jouée à Douala, à Yaoundé, il y a plus de 20 ans. Et c'est une pièce de théâtre qui était marquante et qui était militante, je dirais même citoyenne, parce qu'on a besoin de ça. Parce que, comme vous l'avez dit, l'histoire coloniale au Cameroun est complexe. Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de tabous. Et je trouve que la fiction ne s'est pas emparée assez de cette histoire-là. Ça commence à arriver là avec des livres, mais donc à l'époque, c'était totalement avant-gardiste. Ça m'était même un peu compliqué parce que le pouvoir en place n'était pas très heureux de savoir que cette pièce avait un tel retentissement, parce qu'elle a eu un...
Euphémisme?
Oui.
En Douala, en plus.
En Douala, c'était important.
Pour un sol majeur, est-ce qu'on peut en avoir un tout petit extrait?
Alors, on va en avoir un petit extrait. On va faire confiance à la mémoire du vieux jeune homme que je suis. Djeméa, et Djeméa, Djeméa natena kwedi, Djeméa, Djeméa natena kwedi, biol osidi mbiana, lende banabasawa, osidi mbiana lende banabasawa, osidi mbiana, wenge tokiele, dimende timba, mboa, Djeméa, Djeméa, Djeméa natena kwedi, Djeméa, 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 Djeméa natena kwedi.
Vous êtes traversé, hein, ça se voit, capitaine Alexandre. Vous nous résumeriez cet extrait?
Cet extrait, c'était le final de la pièce de théâtre. Donc je resitue un peu le contexte. Douala Mangabel a été emprisonné avec Ngossoudine, son aide de camp. Donc la cour martiale a décidé d'en finir avec eux. Et ils ont la possibilité de s'enfuir. Parce que certains donc Allemands, qui comprenaient la grandeur de cet homme, certains soldats allemands ne veulent pas avoir ce sang sur les mains, pas le sang de Douala Mangabel. Et on leur dit aussi quelles sont les conditions de cette fuite, c'est-à-dire de mettre un peu d'eau dans leur moulin à parole, si j'ose dire, et ils refusent de partir. Ils refusent de partir, ils refusent de fuir lâchement, et donc il dit en substance que nous n'oublierons jamais que nous sommes Sawa. Donc Sawa, c'est le nom de la tribu à laquelle j'appartiens, les Sawa, c'est le peuple côtier du Cameroun, et nous ne fuirons pas devant la mort, nous ne fuirons pas devant l'adversité. Et Djemia Natenakoudi, c'est-à-dire Djemia, accepter jusqu'à la mort pour nos convictions.
C'était l'hommage de Capitaine Alexandre à papa, merci pour lui. Alors, à l'âge de 17 ans, je reviens sur la route de votre propre vie. 17 ans, c'est l'âge pour devenir Rimbaud, hein, on est clair. Vous savez que vous serez écrivain et que pour ça, pour réaliser cette chose-là, il vous faut passer par Paris. Pourquoi Paris ?
Alors, parce que pour l'enfant que j'étais, Paris était la capitale du monde littéraire. Et Paris, c'était le symbole aussi de la négritude. C'était la rue des écoles, c'était présence africaine, c'était la vision sublime d'Alioune Diop, c'était Césaire. Donc c'était le compagnonnage avec Senghor et Damas. Et puis tous les poètes surréalistes qui ont aussi participé à ma formation poétique et intellectuelle. Donc Paris, oui, Paris comme une évidence.
Et ces fumerolles d'angoisse au bout du petit matin, le morne oublié, oublieux de sauter au bout du petit matin, le morne accroupi, lentement vomissant ses fatigues d'homme.
F.
Au bout du petit matin, le morne famélique.
F comme fil d'Ariane.
Donc il se dit en sol majeur que l'amour de la poésie a commencé pour vous, Capitaine Alexandre, avec un cahier, ce fameux cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, dit à l'instant par Jacques Martial. Pourquoi ce texte a été une claque pour vous ?
Pourquoi il était une claque, ça je ne saurais pas le dire. C'est un peu comme une rencontre amoureuse en fait. Il y a une évidence. Le premier bouleversement, c'était d'être autant happé par un texte que je ne comprenais pas. J'ai dévoré le cahier d'entrée au pays natal en une nuit, et le lendemain, je savais que ma vie serait plus jamais la même. Mais de manière évidente aussi, de manière... c'était là, inscrit en moi...
Une épiphanie.
Oui, complètement, complètement. Et donc oui, ça a été la claque poétique qui a peut-être permis que je comprenne que la poésie était avant tout la respiration de la femme et de l'homme debout.
Petite précision sémantique sous le contrôle de maman. vous êtes un poète, vous êtes un slameur. C'est quoi un slameur ?
Moi, je ne sais pas de différence entre poésie et slam. D'ailleurs, je l'ai écrit de manière un peu ironique dans un texte que j'ai publié. Il se demande encore si je suis slameur ou poète, si l'un est mineur et l'autre majeur. Je n'en sais rien, je suis vivant. Et puis, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est habité par l'idée que la poésie doit sortir des livres et qu'elle doit revenir dans le quotidien des gens, sur la place publique. Quelqu'un qui désacralise le rapport à la poésie. Mais cette réponse n'engage que moi, encore
une
fois.
On est bien d'accord, j'ai rien signé. Alors il y a dans votre champ des possibles, votre premier recueil, une immense déclaration d'amour à la poésie. Il y a vos convictions d'homme humaniste, il y a vos cicatrices existentielles. Et puis, il y a aussi une sorte de manifeste, comme ça, pour la liberté. Et puisque vous êtes, comme vous le dites, une page blanche d'histoire noire, j'aimerais bien qu'on vous écoute tout de suite nous slammer un petit bout de votre « Douala on my mind », Capitaine Alexandre.
Douala, ma mère et mon père, always on my heart, always on my mind. Voilà où j'ai poussé mon premier cri de poésie, où j'ai rencontré l'amour pour la première fois et où j'ai écrit les premières pages de ma profession de foi. Voilà où j'ai vécu, voilà où je suis mort aussi, avec chacun de mes êtres chers avant de renaître à chaque fois de leurs cendres. Douala et son Gondo, Douala et son Gosso, Douala et son Essewe, Douala et mon cortège de souvenirs qui s'enfuit au fil capricieux du temps qui s'en va. Douala et ses Makalamambassi, Douala et son Soa d'Ibumba, ses Miandos, son Ekoki, son Dolé, ses Misolé, Douala et l'odeur enivrante de la cuisine de Sita, Douala et ses Sanja, ses Kaba aux couleurs du jour quand il se lève au sud de mon inspiration. Douala on my mind.
Merci, capitaine Alexandre, d'avoir fait tanguer vos langues natales. Il y en a plusieurs, visiblement. Ce texte est une sorte d'inventaire à l'après-verre sur ce que fut votre Cameroun. Est-ce que c'est un petit peu un poème sépulture ?
Oui, oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière, c'est un poème que j'ai dédié à ma ville natale, Douala. Il a fallu quitter, mais pour mieux la retrouver.
En
mots et en actes forts. De puissance douce, oui.
Il est beaucoup question de vie et de mort dans vos poèmes. En quoi consiste exactement l'acte poétique de se suicider ?
Il consiste à renaître. Il consiste à descendre en soi, à plonger en soi, dans sa part d'ombre et sa part de lumière, pour enfanter un nouvel être qui est là, tapis. Moi, je me suis suicidé plusieurs fois, c'est-à-dire les émotions que me procure la poésie sont des petites morts. Et je vais toujours vers elles. Et j'irai toujours vers elles. Parce que j'ai aimé ça, mourir, pour mieux renaître dans les poèmes des auteurs qui m'ont construit. Et peut-être renaître aussi dans chaque poème que j'écris. Il y a cette idée-là que la mort n'arrête pas la vie.
Qu'est-ce que ça veut dire d'être mort en 1960 ? Alors qu'on est né dans la vraie vie en 1976, Marc-Alexandre.
Alors il y a le soleil des indépendances avorté. Et la référence à 60, c'est l'année de tous les espoirs et des indépendances africaines. Puis de ce que nous avons aujourd'hui.
Vous savez ce qu'on va faire maintenant que vous êtes ancré en partie ici à Paris, capitaine Alexandre, au milieu de ces grands fantômes que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir Senghor, Alioune Diop et consorts, il y a désormais un peu de votre silhouette ici à Paris, silhouette de poète slameur qu'on va écouter dans « Il y a quelque chose ».
Ah. Ces mots de ma mère qui me reviennent, qui tournent en boucle dans mon cœur depuis plus de 20 ans. Il y a quelque chose chez la femme et l'homme, une vacuité sidérale, une part manquante, une absence abyssale, une vacance à être qui ne peut être comblée que par la poésie. La poésie, pas seulement celle des livres, des mots, mais aussi et peut-être surtout celle essentielle des matins de givre et des gestes tendres. La poésie, oui, la poésie. Ou le poème qui se dresse en vertige contre la vulgarité, contre le cynisme, contre la violence du monde. Le poème qui se dresse en vertige pour dire oui, accueillir dans la nuit toute la beauté. Il y a quelque chose chez la femme et l'homme, une vacuité sidérale, une part manquante, une absence abyssale, une vacance à être qui ne peut être comblée que par la poésie. Poésie de la beauté intraitable, poésie des amours inévitables, poésie qui dissipe les ténèbres. Là, la poésie, le poème qui se dresse en vertige pour nous rappeler à nous-mêmes, pour nous rappeler à l'ordre et à la lumière de nous-mêmes. Pour nous rappeler à l'ordre et à la lumière de nous-mêmes. J'ai appris à écrire dans le noir. De là vient peut-être ma quête de lumière. J'ai appris à écrire dans le noir. De là vient peut-être ma quête de lumière. De là vient sûrement ma quête de lumière. J'appelle poésie cette musique, ces visions nocturnes, sensations qui
court dans les allées de la mémoire et concourt à donner sens à nos vies. J'appelle poésie le bleu d'un ciel d'été ou le bleu dans tes yeux, toi que j'ai rencontré dans un livre. J'appelle poésie cette musique, cette musique, les bleus de mon âme ou ceux de nos peuples, le souffle du vent, le son du tambour, cette douceur dans la voix d'une mère aimante, aimée, amour. J'appelle poésie la vie qui passe plus vite que les vacances d'été, la vie qui passe, qui lasse, qui casse. J'appelle poésie la vie.
Quelque chose, mais il y a surtout quelqu'un, un slameur nommé Capitaine Alexandre, en sol majeur.
Elle comme langue maternelle.
Si je vous dis langue maternelle, qu'est-ce qui vous vient tout de suite?
Français, parce que ma mère était prof de français, tout simplement. Et puis voilà, la langue dans laquelle mes grands-parents nous berçaient, ma grand-mère en particulier, le Douala, dont la musicalité me bouleverse toujours. Et puis le français qui est la langue qui m'a permis d'aller à la rencontre du monde et qui me permet d'aller à la rencontre du monde.
Est-ce qu'on peut présenter la philosophie comme une de vos langues maternelles?
Oui, aussi. Alors, ma mère était prof de philo aussi, mais c'est aussi une de mes matières préférées à l'école. Et puis, celle de la tribu à laquelle j'appartiens est une philosophie qui me construit chaque jour. C'est l'Ubuntu. Et l'Ubuntu consiste à dire « je suis parce que vous êtes ». Voilà, et donc c'est quelque chose qui est ancré en moi. Et je crois que la notion de collectif que je porte, elle vient de là aussi.
Alors, vous avez dû tomber un peu de votre chaise en lisant les grands philosophes de la philosophie occidentale, quand vous êtes tombé peut-être sur Hegel qui disait que l'Afrique n'avait aucune culture.
Oui, mais en fait j'ai pris ça pour de l'inculture. Moi j'ai toujours eu de la compassion pour les gens qui manifestaient ainsi leur inculture.
J'ai... Et Hegel appréciera.
Oui, je pense, autant que les Africains ont apprécié son expression, en tout cas l'expression de son rapport à l'Afrique.
15 et, partout.
Voilà, c'est exactement ça. Mais oui, dans la philosophie occidentale, j'ai quelques guides à penser. Mais il y a aussi beaucoup de penseurs qui, pour moi, ont témoigné, ont fait preuve, en tout cas, d'une inculture totale en ce qui concerne l'Afrique. Et je pense qu'on peut le leur pardonner, ou pas, mais c'est à chacun de mener ses combats et de voir où il a envie, en tout cas, de se positionner comme combattant.
Quels ont été vos premiers professeurs d'espérance, comme vous dites?
Alors, c'est d'abord les poètes. Alors je pourrais vous en citer, mais on passerait la journée, mais je peux en citer quelques-uns.
C'est pas des philosophes, en tout cas.
Il y en a eu aussi. Il y a Martin Heidegger. Étonnamment, alors il a une position très ambiguë pendant la guerre, son rapport au régime nazi. Mais Heidegger, je me souviens d'une phrase, c'était en terminale, et une phrase qui m'accompagne encore aujourd'hui, la philosophie est un chemin qui ne mène nulle part. Et cette phrase-là, que j'appelle des phrases étincelles, elle m'a apporté énormément. Et puis après, il y en a d'autres, il y a Nietzsche aussi qui a marqué ma pensée, et puis Albert Camus.
Mais quel texte?
De Camus, Le premier homme. Voilà,
Alors là, le choc, c'est quoi finalement pour ce petit Français d'Algérie qui vit dans une famille très pauvre, avec une mère analphabète, quasiment aveugle?
Oui, c'est le dépassement en fait. C'est que finalement, par la pensée, par la culture, on peut tout transcender en fait. Et puis il y a cette idée qu'il faut imaginer toujours Sisyphe heureux.
Est-ce que ça veut dire que vous vous sentez avoir deux logiciels de pensée, c'est-à-dire entre la philosophie occidentale et puis la philosophie de l'Ubuntu?
J'en ai plusieurs, même. Moi, je suis un poète de l'errance, mais peut-être aussi un penseur de l'errance. Et ce que j'aime, c'est me perdre dans les mondes qui ne sont pas le mien, aller voir ailleurs si j'y suis et réaliser que j'y suis aussi. Quand je lis Omar Khayyam ou Rumi, je me sens chez moi. Quand je suis dans la pensée de Camus, je me sens chez moi. Quand je suis dans l'Ubuntu, alors je suis chez moi autant que je suis ailleurs, en fait. Et c'est, ça a toujours construit ma pensée, mais je crois qu'aussi c'est ma mère qui nous a invités et initiés à ça. La philosophe préférée de ma mère était Hannah Arendt, donc femme d'action, femme de conviction, philosophe allemande, et complètement habitée. Et je me souviens que ma mère nous disait ça souvent, c'est qu'il fallait avoir la curiosité de tout ce qui n'était pas nous-mêmes. Et l'errance, que j'incarne aussi par le mouvement incessant dans lequel je suis pour et par la poésie, cette errance-là, elle me constitue, et c'est une errance de tous les instants et dans tous les domaines de l'art, en fait.
Donc je comprends mieux pourquoi le poète de l'errance que vous êtes a pris la plume un jour pour écrire sa lettre à France.
On vient chez vous peut-être, mais pas le cœur vide. On ne vient pas pour vous prendre votre pain, mais pour gagner le nôtre. On vient chez vous peut-être, mais pas par hasard. On vient parce que vous êtes venus chez nous aussi et que nos cultures sont entrées en contact. Que vous le vouliez ou non, que nous l'acceptions ou non, nous avons une histoire commune.
Et comme... étrange étranger.
Et oui, parce qu'il me semble, capitaine Alexandre, que vous vous définissez comme ça, comme un étrange étranger. Est-ce que c'est en lien avec le fait qu'il y a eu cet arrachement de votre terre natale, le Cameroun, tout en ayant un lien ombilical à la langue française très très fort? Qu'est-ce que vous entendez par étranger?
Alors, il y a le... Je me suis toujours senti étranger, même quand je vivais au Cameroun, hein, étranger par rapport à certaines mœurs ou à certaines visions du monde partagé. Je viens d'une société où on ne sait pas être seul, où on n'est jamais seul. Les familles sont envahissantes et elles sont toujours présentes. Alors il y a des choses très positives là-dedans, mais il y a des choses aussi qui peuvent l'être un peu moins quand on a ne serait-ce qu'envie d'écrire, où il faut être retranché, enfermé dans sa solitude, comme un cadeau et comme un moment précieux. Ce qui n'était pas toujours compréhensible par les autres autour de moi, parce qu'être seul, c'était s'arracher à la communauté. Et je me suis rendu compte que ça m'a suivi et ça me suit encore. J'aime bien m'extraire du monde, de la frénésie du monde, pour être avec moi-même et converser avec moi-même. Puis après, il y a eu le choc de l'exil. J'étais déjà venu en France, mais j'étais venu en vacances avant de venir m'y installer. Et quand je m'y suis installé, j'ai découvert une autre France aussi. Et j'ai découvert autre chose. J'ai été confronté, quand je suis arrivé, à la discrimination raciale, au racisme parfois. J'ai réalisé aussi que cette notion d'étranger, finalement, elle me renvoyait à cette idée que je voulais vivre enraciné dans mon errance. Être bien partout, où on m'accueillait comme un être humain, et en même temps, rester cet étranger par défi, par dépit, par délit, par dandisme aussi.
Donc vous le dites joliment, et dans cette belle langue de Molière, est-ce que, selon vous, la langue, ça peut être le premier des drapeaux?
Complètement, je pense qu'on habite sa langue, surtout en plus quand c'est son matériau premier.
Tout en étant dans l'errance aussi avec cette langue?
Oui, absolument.
Et ça veut dire quoi être dans l'errance linguistiquement, ou dans la langue quand on est poète ou slameur?
Ça veut dire, par exemple, écrire en français dans une langue étrangère.
C'est-à-dire?
Alors...
Je mets mes lunettes, je vous écoute.
Mais ça veut dire que parfois... dans les images que j'ai mises ensemble, c'est du doigt là, et pourtant je suis en français. Ça a été très flagrant quand je suis allé au Brésil en tournée, et j'ai écrit quelques poèmes qui rendaient hommage aux gens que j'avais rencontrés pendant un mois dans le nord-est du Brésil, et l'effort que j'avais commencé à faire d'apprendre une langue qui était magnifique, que je découvrais vraiment, et je me suis rendu compte que l'art de rien, toutes les images qui étaient dans ces textes-là, étaient des images... né du frottement de mes langues maternelles, du douala, du français et de cette nouvelle langue dans laquelle je baignais depuis un mois.
Vous êtes une éponge.
Je suis oui, j'aime bien cette idée-là d'être une frontière, mais une frontière au sens d'ouverture. Parce que la frontière est aussi le lieu de l'ouverture. Souvent, on la pense négativement, mais la frontière est aussi le lieu qu'on traverse et qui nous traverse sans arrêt.
Dans quel état vous avez écrit « Résident de la République » ?
En état d'urgence. Ça, c'est un texte qui a surgi en moi de toute urgence. Pour plusieurs raisons, je l'ai écrit au lendemain des attentats
de Charlie Hebdo,
au lendemain de conversations avec les élèves que j'avais sur le fait d'être ou ne pas être Charlie. Je l'ai écrit en ayant le regard de mes enfants, donc métis, franco-camerounais, témoins de cette violence-là qui, pour la première fois, n'était plus une violence dans le monde, mais dans leur monde, c'est-à-dire en France. Je l'ai écrit témoin d'une violence qui nous liait les uns aux autres, parce que la même semaine, il y avait eu un attentat à Beyrouth et j'avais des amis libanais que j'avais eu au téléphone pour savoir s'ils allaient bien. Quand il y a eu Paris, c'est eux qui m'appelaient pour savoir si j'allais bien. Et trois jours après, dans le nord du Cameroun, à Maroua, il y avait Boko Haram qui sévissait. Et donc, je me rendais compte qu'on était connectés comme ça, mais par la violence. Mais au-delà de la violence, on était connectés aussi par l'affection, la tendresse qui nous liait les uns aux autres. Et donc, dans ce texte-là, j'avais envie d'exprimer tout ça. Alors, il est temps. Il est temps pour nous, il est temps peut-être de rallumer les lumières au nord, au sud, à l'ouest, à l'est d'Éden. Car nous sommes nombreux, nous aussi, à dire non à la peur de l'autre. L'autre qui ne vit pas, ne rit pas, ne prie pas, ne jouit pas comme nous. Nous sommes nombreux, nous aussi, à dire non, non à l'obscurantisme et à la propagande de ceux qui nous tuent, nous défendent de notre humanité au nom d'un Dieu ou de l'idée qu'ils s'en font. Ceux qui nous haignent, nous, mécréants, athées, agnostiques, animistes, religieux, pratiquants ou non, nous, infidèles, autant que nous sommes tous, au fond, en droit d'être humain. Il est temps, peut-être, de rallumer les lumières et les étoiles dans les yeux des enfants. Rallumer les lumières et les étoiles, voilà notre projet, échafaudé debout dans le sang gisant au sol, le bruit des balles qui sifflent, des bombes qui soufflent, des machettes qui tranchent, des haches qui décapitent. Rallumer les lumières et les étoiles malgré le bruit et la fureur. Rallumer les lumières et les étoiles malgré le bruit et la fureur. À 15 ans, je me disais que la terre se porterait bien mieux sans prophète. Et que le monde tournerait plus rond s'il consentait enfin à croire en ses poètes. Je rêvais alors de voir les peuples se convertir massivement à la poésie.
On a un peu le kiki serré hein, à la fin du poème, mais ce n'est pas la fin du poème véritablement. Merci, capitaine Alexandre. Mais
merci.
Je me dis en vous lisant que finalement, dès que le sang coule sur la terre, que ce soit au Kosovo, à Kigali ou à Paris, quand c'est les attentats de Charlie, vous arrivez, vous écrivez. C'est un poète, c'est un pyromane. C'est pas un pyromane, c'est le contraire, c'est un pompier.
Le poète peut être un pyromane aussi. Franck Etienne aime à dire ça, que le poète est un pyromane.
Vous êtes dans quel
camp, vous ? Qui enflamme les mots et les âmes. Mais il y a cette idée-là aussi, oui, bien sûr, par la poésie, de nous rappeler que nous sommes les mêmes. Et là, on pourra aller chez Fanon, nous rappeler que rien de ce qui est humain ne devrait nous être étranger.
Dans Résident, on entend évidemment résistant.
Mm-hmm.
Je rappelle que vous ne vous appelez pas capitaine Alexandre pour rien. Allez voir du côté de René Char. Est-ce que vous vous sentez une sorte de filiation avec certains mouvements de résistance, qu'ils soient poétiques, militants, politiques ?
Oui, complètement. Je me sens une filiation avec tous les mouvements de résistance. Quand j'ai lu Mahmoud Darwish la première fois...
Vous êtes palestinien ?
Quand j'ai lu « Plus rares sont les roses », j'avais l'impression qu'il me parlait de chez moi. Et il me parlait de chez moi. Et donc cette résistance-là palestinienne à l'occupation, elle me parle. Elle a toute ma fraternité, toute ma tendresse. Et pas seulement parce qu'il y a Mahmoud Darwish et que Mahmoud Darwish est poète, mais parce qu'il y a un État qui est inacceptable. Alors celle-là, c'est peut-être la plus proche de chez moi géographiquement, mais j'ai grandi dans la résistance à l'apartheid. La figure de Mandela, dont je parlais tout à l'heure, et Capitaine Alexandre, qui est un hommage à Mandela aussi, pour ses vers, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Ces vers qui ont accompagné Mandela pendant toute sa vie, dont une grande partie s'est déroulée en prison, et où il se répétait ces vers-là comme un mantra. Et cette résistance-là, elle fait partie de ma vie. La résistance et mouvement des droits civiques aux États-Unis. Pendant des années, je ne pouvais pas monter dans un bus sans penser à Rosa Parks. Et pourtant, voilà, ça a quand même été très présent. Et pourtant, je suis Camerounais en Afrique, a priori très loin de cette histoire-là. Mais ça m'a fondé, ça a fondé ma pensée, ça a fondé mon rapport au monde aussi.
Oh.
Beau comme objectif lune.
Capitaine Alexandre pris en flagrant délit de rire, pourquoi ?
C'est l'objectif lune qui m'a arraché ce rire.
On va voir si ça vous fait rire tout le temps. On a slamé sur la lune, c'est quoi ?
C'est un rêve habité, c'est une idée lancée au lendemain d'une soirée d'ébriété intellectuelle, je tiens à le préciser.
Ah bon ?
Et oui, je tiens à le préciser parce que mes enfants écouteront l'émission peut-être.
Mais s'ils n'écoutent pas...
Alors s'ils n'écoutent pas, au lendemain d'une soirée d'ébriété, à la fin d'un sac de poésie que j'animais à Lille, donc des poètes, des slameurs venaient dire leurs textes et avec certains on se reconnaissait, on avait tellement d'évidence entre nous et on refaisait le monde à la fin de chaque soirée et parfois pour refaire le monde, boire du vieux rhum, ça peut aider, je veux dire, à s'oublier et à partager. Et donc une soirée d'ébriété en remet, on s'est demandé le truc le plus fou qu'on pourrait faire là. Mm-hmm. Et la lune était pleine, la lune était belle. Et je me souviens, j'ai dit, ce serait aller slammer sur la lune. Donc on a tous éclaté de rire, on a continué à boire parce que le rhum était très bon. Mais quand je suis rentré chez moi, il y avait un truc qui restait. Et à 8h du mat, j'ai appelé les copains avec lesquels j'avais passé la soirée. Et je leur ai dit, voilà, aller slammer sur la lune. On va en faire une réalité. Et on a créé un collectif à Lille il y a 10 ans. Et qui est un collectif de troubadours, de ménestrels chantants et à la fois une organisation de libération de la parole parce que les artistes que nous sommes, sommes au service de cette libération-là aussi de la parole en milieu scolaire, dans les centres sociaux, dans des pénitenciers, partout en fait où on a eu la possibilité d'intervenir pour partager cette idée que par les mots, on peut faire acte de présence au monde. Mmh.
Vous êtes en train de devenir vous-même un professeur d'espérance, finalement, Capitaine Alexandre. Donc, après avoir eu vos propres professeurs, René Char, Aimé Césaire, Éluard, Neruda, Rumi, Omar Khayyam, si on écoutait Dieu, c'est-à-dire Franck Étienne, le trésor national haïtien.
La quête occulte. Le visage s'inquiète à chaque entrebâillement du masque.
Épuiser la faille
tempête close à l'intérieur du sablier, par la folie des cimes, infranchissable frontière du rêve rongée de sable.
Le poids des songes écrase nos yeux,
le virus de l'imaginaire nous dévore,
l'exil du hasard,
l'échec et son étau fatal.
Je ne me départirai point de mes vœux solaires,
larguer les amarres de nos songes, hantise au détour du chemin.
Mon vers solitaire,
le viol ne se prête,
mon amour.
Annule suture.
C'est un peu extrême cette façon de présenter Franck Étienne comme un dieu. Pourquoi c'est un dieu pour vous, Capitaine Alexandre ?
Oh, Franck Étienne est dieu pour mille et une raisons. La première, c'est que il a cette aura-là. J'ai rencontré Franck Étienne, la première fois, j'ai rencontré les mots de Franck Étienne sans savoir qui c'était. On a à Douala ce qu'on appelle des librairies soleil, c'est des livres sur le trottoir vendus et on donne ce qu'on veut aux vendeurs, à la sauvette. Et il y avait un texte dont le titre était « Fleur d'insomnie », posé par terre, déchiré. Et « Fleur d'insomnie », ça m'avait, le titre m'avait parlé parce que je pense que parfois les livres nous choisissent parce qu'ils ont des choses à nous dire. Et j'ai pris ce livre que j'ai lu et pareil, le même bouleversement que chez Césaire, un langage, presque une incendie en fait en moi. Alors je dis, c'est marrant, je dis une incendie, oui. Parce que dans le texte, justement, pour Franck Étienne, incendie était un mot qui aurait dû être féminin. Alors, il y a eu ce texte, et je ne savais absolument pas qui c'était, donc je me souviens, je rentre, je dis à ma maman, est-ce que tu connais Franck Étienne ? Et elle ne connaissait pas non plus, donc j'avais ce poète haïtien-là, qui révolutionnait aussi mon rapport à la langue française, parce que comme Césaire, il y avait quelque chose de complètement créole, d'associer les mots avec l'imaginaire de pays poème, avec l'imaginaire de territoire tellurique. Et donc, ensuite, quand j'ai rencontré Franck Étienne, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, avec sa barbe, il jouait Mélo Viviu, le piège, à Paris. J'y suis allé en fan absolu, parce qu'entre-temps, j'avais tout lu de lui, et je suis allé le voir. J'ai osé aller lui demander l'asile poétique. Et il m'a pris les mains et il m'a dit « Tu es mon fils et je t'accorde l'asile poétique. » en Haïti. Et donc on a éclaté de rire, et donc ce qui a fait dire à la personne qui était avec moi, tu es le fils de Dieu maintenant. Donc.
Ah oui, vous avez l'art de réécrire votre généalogie, vous. Hein. Mais cela dit, Haïti, c'est quand même une véritable terre d'ancrage poétique pour le coup.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous vous y promenez comme une sorte de prophète? Vous savez, on dit que nul n'est prophète en son pays. Est-ce que vous êtes davantage un prophète en Haïti qu'au Cameroun?
Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que j'ai une tendresse particulière pour Haïti, pour tout ce qu'Haïti m'a apporté en tant qu'auteur, mais en tant qu'homme aussi. Ce que j'ai aimé aussi en Haïti, c'est, contrairement aux poètes africains, qui parfois se positionnaient toujours et étaient seulement dans la résistance, en tout cas pour ce que je découvrais, chez les poètes haïtiens, il y avait la vie, il y avait la sensualité, le rapport à la femme,
la langue d'abord.
Et bien entendu aussi des causes, d'ailleurs qui sont des causes communes, mais il y avait la langue d'abord et puis la vie dans tout ce qu'elle peut porter en elle. Alors qu'en Afrique, à l'époque en tout cas, chez les poètes que je découvrais plus jeune, il fallait tout de suite se positionner, on était contre quelque chose. Et quand t'es enfant, tu te dis que t'as pas seulement envie d'être contre, t'as aussi envie d'être pour, voilà.
Vous êtes du côté du pardon et du fleuve de la vie, on va dire, capitaine Alexandre. Alors, pour un seul majeur, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes complètement allongé.
D'accord.
On a convoqué une pleine lune pour vous, et c'est un minimum en seul majeur, d'après ce que j'ai compris. Donc vous êtes allongé quelque part sur la planète bleue. Vous savez, c'est ce petit moment où, lorsque le cœur fait du bouche-à-bouche avec les étoiles, ça donne ça.
Il faut connaître les animaux, il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins,
à des maladies d'enfants,
dans des régions inconnues
qui commençaient si singulièrement,
à des rencontres inattendues,
des graves transformations,
à des départs que l'on voyait longtemps approcher,
à des jours
d'enfance,
passés dans les chambres
dont le mystère ne s'est pas encore éclairci,
à la mer elle-même, à des mers,
à ses parents,
à des nuits de voyage.
Qu'il fallait qu'on croie ça lorsqu'il nous apportait une joie et qu'on ne la comprenait pas.
Pleine lune musicale. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tout ça, capitaine Alexandre?
Parce que ça me fait, irréductible au mot, un grand bonheur d'entendre Laurent Terzieff dire un extrait de lettre à un jeune poète de Rilke sur la musique habitée de Dafer Youssef. Là, vous avez réuni dans cet instant-là toute la grâce que je trouve à certains créateurs.
Est-ce que la beauté pour vous, elle naît, comme Franck-Étienne aime à le dire, du chaos? Est-ce que c'est du chaos que naît la poésie?
Oui, comme Nietzsche aussi, est-ce que c'est du chaos que naissent les étoiles? Peut-être, oui, je ne sais pas ça. Mais ce que je sais, par contre, c'est que nous sommes des extrémistes de la beauté. Nous en avons radicalement besoin, parce que seule la beauté nous permet de transcender le chaos, justement, dans lequel parfois nous plongeons entiers.
Est-ce que dans un dernier souffle en sol majeur, vous partageriez avec nous votre petit rituel du matin? Chaque matin, vous choisissez un poème.
Oui, je fais ça depuis plus de 20 ans. Chaque matin, je lis un poème que je lis à voix haute pour en ressentir toute la musique, l'intensité, la sensualité et la lumière.
Et alors ce matin?
La tendresse des poètes est une baleine bleue qui voyage autour du monde. Aidez-nous à sauver cette espèce en voie de disparition. Et c'est de René de Pestre.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à capitaine Alexandre, notamment Le Chant des possibles et Résident de la République aux éditions La Cheminante, et puis De Terre d'amour et de feu, publié chez Mémoire d'Encrier. On va refermer son sol majeur avec justement un peu de terre, de mer, d'amour et de feu. Vous l'avez écrit dans quel état d'esprit, ce texte-là?
Alors je l'ai écrit sous influence d'une terre tellurique qui est Haïti. que j'aime profondément. J'ai embrassé Port-au-Prince comme on embrasse un premier amour, un premier soir de saison des pluies. On se sent alors lentement pleuvoir soi-même, et jamais on oublie le vertige du baiser bleu qui scelle l'union de langue au bout de mangue térébinthe. Jamais, jamais on oublie qu'on a offert sa bouche au bonheur fragile et précaire de l'instant, soleil pour l'âme. J'ai embrassé Port-au-Prince comme on embrasse un premier amour. Comme on embrasse un premier amour. 3 jours et 3 nuits fièvre plus tard, je brûle encore et je tremble de terre, de mer, d'amour et de feu. Je tremble de terre, de mer, d'amour et de feu. Mon cœur navire s'enchaîne, chavire encore et s'ouvre entier au langage de mystère des étoiles filantes. J'ai embrassé Port-au-Prince.
Chiesa mai malanto d'Olivieti, mon malanti, mon malanto.
Fantômes et fantasmes dansent. La valse étrange de mes souvenirs couleur sépia. Fatigué mais debout, j'irai. Au bout de mon songe dément, je boue au feu de mon sang d'encre mêlé. Il me fallait me vider de mes mots ailés, de ma poésie monde créole, de mes jours et de mes nuits, de mes amours en sursis, de mon sang sans espoir indécent de retour en arrière. Il me fallait me vider de mes mots ailés, de ma poésie monde créole, de mes jours et de mes nuits, de mes amours en sursis, de mon sang sans espoir indécent de retour en arrière. Port-au-Prince, je te bois, je te vois, je te crois, je m'assois à ta table, oublié des anges et de Dieu qui est mort à midi dans un accident place Pétion. Port-au-Prince, je te bois, je te vois, je te crois, je m'assois à ta table, oublié des anges et de Dieu qui est mort à midi dans un accident place Pétion. Port-au-Prince, je te bois. Port-au-Prince, je te vois. Port-au-Prince, je te crois. Port-au-Prince, je m'assois. Port-au-Prince, je m'assois à ta table, oublié des anges. Port-au-Prince, je te bois, je te vois, je te crois, je m'assois à ta table.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio, derrière votre poste, sinon chaque samedi, chaque dimanche à 14h10, son universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec une rediffusion autour de Leïla Slimani. À la semaine prochaine.
Hey, salut.